Bonjour, bonjour. Vous m'entendez ? Mesdames, messieurs, merci d'être là. Je vais dire deux mots sur notre conférencière de cet après-midi, Corinne Chuard. Corinne Chuard est une historienne indépendante et c'est un peu une oxymore, ou en tout cas quelque chose de difficile. Vivre de l'histoire quand on n'est pas salarié, c'est quelque chose qui est extraordinairement difficile en Suisse romande et ailleurs aussi d'ailleurs. Et elle y parvient à peu près en faisant aussi quelques mandats de communication, mais c'est assez miraculeux et c'est pas en hasard, c'est dû à ses talents. Voilà. Alors elle fait des recherches historiques puis des publications pour différents commanditaires. Et puis en fait, une de ses grandes forces, c'est une des raisons pour lesquelles elle survit là où les gens meurent en général, c'est qu'elle a une formation à la fois d'historienne et de journaliste. Donc elle sait rendre les sujets plaisants, agréables à lire, et puis en même temps, elle a le sérieux scientifique. Et puis elle a fait pas mal de publications. J'en cite quelques-unes assez rapidement. Sa première publication, c'est un livre sur la Révolution vaudoise qu'elle a fait pour le bicentenaire de la Révolution en 1998, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un livre que personnellement j'ai beaucoup beaucoup apprécié parce que dans ma vie j'ai dû faire pas mal de discours du 24 janvier pour les banquets du 24 janvier de l'indépendance et pour une personne qui traversait le canton, qui chaque fois allait ailleurs. Et il y a un truc extraordinaire là-dedans, c'est que Corinne a fait chaque bailliage, le point de vue de chaque bailliage, ce qui s'est passé dans chaque bailliage pendant la Révolution vaudoise. Donc on peut varier les discours à l'infini, et c'est une adresse qu'on se refilait entre conseillers personnels, de conseillers d'État, parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de renouveler les discours du 24 janvier. Donc c'est vraiment un ouvrage très précieux. Elle a fait assez récemment un livre d'histoire vaudoise, qui est un petit livre, un petit précis, qui raconte très rapidement l'histoire vaudoise, qui est en résumé, et qui est très très bien fait, et qui a l'avantage d'être extrêmement sympa à lire et instructif, ce qui fait qu'il s'est vendu 5000 exemplaires. À partir de 1000, on dit qu'on fait un succès de librairie en Suisse romande. Pour un sujet que vaudois, 5000, je ne vous dis pas ce que ça veut dire. Elle a aussi publié un petit ouvrage sur l'histoire de Daillon. C'est très intéressant, et ça c'est une particularité de Corinne Chuard, qui, bien que lausannoise d'origine, elle est d'origine de Corcelles, c'est peut-être pour ça, de Corcelles près Payerne, elle a toujours une vision pas lausanno-centriste. Et là on a une sorte de très jolie histoire du canton de Vaud à travers un petit village, et puis vraiment c'est beaucoup plus incarné que n'importe quelle histoire vaudoise. Enfin, c'est plus incarné que l'autre, évidemment. Et c'est vraiment sympa. Et puis, elle n'est pas là pour tout ça. Elle est là parce qu'elle a inauguré l'année d'Avel, en septembre dernier, il y a à peu près 12 mois, 13 mois. Elle a fait le dossier du passé simple consacré à d'Avel. Et puis, elle a fait juste derrière, c'était publié un mois après, je dirais, une petite biographie de d'Avel. Donc, c'est assez logique que, vu qu'elle a commencé l'année, qu'elle nous la termine. Donc cette conférence, c'est un petit peu la fin de l'année d'Avel. Donc je lui laisse achever l'année d'Avel.
Merci. Merci d'être venu cet après-midi, vous extirper du soleil pour venir dans le noir, pour l'évocation de la double vie de d'Avel. Double vie parce qu'il y a une première vie, sa vraie vie, et puis la seconde, c'est celle que l'on commémore aujourd'hui, les 300 ans de son exécution, le 24 avril 1724. 23. Évidemment, le major d'Avel, en tout cas pour tous vos doigts qui se respectent, tout le monde le connaît, ou presque, en tout cas on connaît son nom, à défaut de pouvoir dire exactement ce qu'il est et ce qu'il a fait. En tous les cas, le major d'Avel n'est ni un mythe, ni une légende. C'est un vrai personnage, avec une vraie histoire, qui, certes, 3 siècles plus tard, conserve encore ses zones d'ombre et de mystère. Ce que l'on commémore, et vous le savez bien, ce sont donc les 300 ans de son exécution, le 24 avril 1723. Les Bernois, à cette époque-là, gouvernent alors le pays de Vaud depuis presque 2 siècles, depuis 1530. 36. C'est à Moran que Jean-Daniel Abraham d'Avel naît le 20 octobre 1670. Depuis 2 ans, son père, le pasteur d'Avel, Daniel d'Avel, y est pasteur. L'historien Jean-Pierre Bastion a beaucoup étudié la famille d'Avel, qui n'est pas une famille vaudoise de vieille souche. Elle est à la base d'ascendance lombarde. Le plus lointain ancêtre de d'Avel est arrivé à Lavaux à la fin du XVe siècle. Il est venu de Lombardie, d'une région juste au nord de Domodossola, qui dispose à l'époque d'une certaine autonomie. Et lorsque cet ancêtre émigre en 1489, les registres le désignent alors comme lombard et maçon, venu pour remonter les murs de vignes de Lavaux. Cet ancêtre fait partie d'une vague d'immigration qui est venue de Lombardie, de Savoie également et de Thonon. Vague d'immigration qui renouvelle complètement la population de Lavaux entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle. La famille d'Avel acquiert la bourgeoisie de Rié en 1564 et celle de Cuilly en 1577, soit à peu près à peine un siècle avant la naissance de Jean-Daniel Abraham. La famille d'Avel évolue donc dans un environnement vigneron. En devenant pasteur, son père constitue donc à cet égard une exception. Son père décède assez rapidement. Jean-Daniel Abraham a 6 ans lorsque son père disparaît. La famille, la mère et ses 5 enfants déménagent alors à la rue de la Mercerie à Lausanne. Et c'est là, à tout près, que Jean-Daniel Abraham fréquentera le collège latin de la cité avant de se lancer dans un apprentissage de notaire. C'est à Cuilly que d'Avel s'installe à l'âge de 18 ans pour y exercer son activité de notaire baillival et de commissaire arpenteur, soit de géomètre. La famille d'Avel a dans la région quelques propriétés, cette maison rue du Temple 7, une grange qui est aujourd'hui entre Forel-Lavaux et Puydoux, qui appartenait à la mère de d'Avel, une parcelle de vigne à Cuilly, qui est aujourd'hui traversée par la ligne de chemin de fer et la route, enfin 2 parcelles de vigne à Épaisse. Tous ces biens seront bien sûr confisqués après la mort de d'Avel. D'Avel quitte assez rapidement Cuilly, 4 ans après le début de son activité de notaire. Comme bon nombre de ses concitoyens ou de ses contemporains, il embrasse en 1692 la carrière militaire sous les drapeaux étrangers, d'abord au service de Guillaume III d'Orange, gouverneur des Provinces-Unies, puis roi d'Angleterre, alors à la tête d'une large coalition contre Louis XIV. D'Avel devient secrétaire, puis aide-major dans le régiment du colonel vaudois Jean de Saconnet, seigneur de Bursinel. De Saconnet aura à Berne une très bonne presse, puisqu'il deviendra vers la fin de sa vie, et c'est en fait assez rare pour un vaudois, bourgeois de Berne et bailli d'Oron. En 1708, d'Avel change de camp et passe d'un prince protestant à un roi catholique en s'enrôlant dans l'armée de Louis XIV. L'expérience dure 3 ans. En 1711, déjà près de 20 ans après son premier départ sous les armes, il revient en terre cuillérane. Il a alors 41 ans. De cette période sous les armes, on ne connaît pas grand-chose aujourd'hui. C'est une période assez peu documentée. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que d'Avel ne fut qu'officier subalterne et n'a jamais occupé une fonction de commandant. De cette période sous les armes, en 1711, lorsqu'il rentre à Cuilly, il a à peine le temps de déposer ses bagages qu'il retrouve de Saconnet, qui n'a cessé de jouer d'ailleurs un rôle de protecteur à son égard. Un conflit éclate en 1712 entre cantons protestants et catholiques. Berne mobilise ses milices vaudoises sous le commandement justement de Saconnet. Davel et son adjudant en charge de la compagnie de Villette. Et c'est durant cette seconde guerre de Villemergen que Davel se distingue. Sa bravoure au combat lui vaut non seulement le versement d'une pension, mais aussi la promesse d'une promotion qu'il obtiendra 5 ans plus tard, en 1717. Berne le nomme alors major d'un des 4 départements militaires du Pays de Vaud, englobant les 4 paroisses de Lavaux, soit Lutry, Villette, Saint-Saphorin et Corzé, ainsi que les bailliages d'Oron et de Vevey. Que se passe-t-il à Cuilly durant toutes ces années qui précèdent la marche du major Davel sur Lausanne? Les documents manquent aujourd'hui encore pour suivre Davel et son évolution, l'évolution de ses réflexions sur le régime bernois tout au long de ces années qui vont l'amener à son acte de rébellion le 31 mars 1723. Ce jour-là, il rassemble ses troupes sur la place d'armes de Cuilly. Davel a bien choisi sa date puisque tous les baillis sont à Berne pour se répartir les charges gouvernementales. Ils sont donc absents de leur terre vaudoise, grave erreur. Davel a le champ libre, à Cuilly, il passe en revue ses 600 hommes, il compte sur l'estime et la confiance qu'il inspire, et il se met en route pour Lausanne, suivi de ses officiers et de ses soldats. Il arrive en début d'après-midi à Lausanne. La métropole d'aujourd'hui n'est alors qu'une petite cité d'à peine 7000 habitants, entourée d'un corset de murailles et de campagnes. Ces quartiers se comptent sur les doigts d'une main. Il y a la cité, évidemment, le bourg, le pont, là où habitent les Huguenots arrivés à la fin du XVIIe siècle, la Palue, centre politique et économique de la ville, et Saint-Laurent, évidemment. Davel se dirige vers le Grand Temple. Le Grand Temple, c'est la cathédrale, et il y dispose ses troupes dotées d'armes, mais pas de munitions. Puis il descend à l'hôtel de ville, place de la Palue, c'est là devant le conseil des 24 qu'il expose pour la première fois ses vues. Dans ce discours, Davel appelle à l'émancipation des Vaudois. Il réclame, je le cite, la pleine, entière et assurée délivrance de la domination de Berne. Il préconise l'envoi d'une troupe d'élite sur les frontières avec ordre d'être prêt à un armement général et il demande aussi qu'on lui confie le commandement des troupes, celles de Lausanne comme celles des autres villes du Pays de Vaud qui doivent se rallier à sa cause. Après son discours aux autorités, ces autorités qui font preuve de prudence puisqu'elles avaient prêté serment de fidélité et de loyauté à leurs excellences de Berne juste avant, Davel enchaîne avec son manifeste qu'il entend adresser à Berne. Ce document, c'est le document clé de toute cette affaire. Il est capital, il constitue une sorte de cahier de doléances, de plaintes, où il analyse les défauts et les abus du gouvernement bernois. Ce réquisitoire est sans appel. Davel passe en revue nombre de sujets qui le fâchent. Les baillis, leurs malversations, leurs abus, le commerce, qu'il considère ruiné par Berne, les droits et les privilèges des villes vaudoises, dédaignés par le gouvernement, et les redevances, les taxes, les impôts trop élevés. Il reproche aussi à Berne de ne pas répondre aux Vaudois qui ambitionnent un parcours militaire à la hauteur de leur qualité. Et il sait de quoi il parle. Davel est tout aussi intransigeant lorsqu'il parle de l'Église, ou plus précisément de l'utilisation de l'Église par Berne pour asseoir son pouvoir. Il pointe aussi de son doigt accusateur la manière bernoise de laisser à l'abandon les cures, les églises, et de détourner les biens de l'Église à leur profit. Leurs excellences de Berne demanderont à Christoph Steiger d'annoter le manifeste de Davel. Steiger, c'est l'un des tout hauts dignitaires de Berne, homme reconnu pour sa grande culture. Il est président du Conseil secret, en charge notamment des affaires extérieures. On est là au cœur du pouvoir bernois. Sur nombre de remarques du manifeste, étonnamment, Steiger abonde dans le sens du major Davel. Il exprime même une certaine compréhension à son égard. Et c'est ainsi qu'il écrit au terme de ses remarques, de ses annotations, Il écrit ceci. De deux choses l'une, ou bien il faut taxer de rébellion et de parjure les pieux fondateurs de la Confédération, qui, lassés d'un gouvernement arbitraire, s'en sont libérés, ou bien il faut croire qu'un souverain outrecuidant et dédaigneux des lois perd le droit de commande et fait que le sujet se sent en droit de reprendre sa liberté première. Lorsque Davel sort de la maison de ville, place de la Palue, les autorités lausannoises lui parlent, histoire de gagner des heures précieuses, avec beaucoup d'honnêteté et de douceur, disent-ils. Elles lui tiennent compagnie, elles lui promettent de passer en revue ses troupes. Les soldats de Davel reçoivent leur billet de logement, ses officiers l'assurance d'un souper. Une poignée de notables l'accompagne jusqu'à la rue de Bourg. C'est sans doute au Lion d'Or qu'il prend son repas avant de passer la nuit juste en face chez Jean-Daniel de Crouza, le major du département de Lausanne et « ami » en guillemets d'armes de Davel. Pendant ce temps, Lausanne se barricade. C'est le branle-bas de combat. Le lieutenant Baïval Loïs de Bochas s'enferme au château. Les milices sont appelées à la rescousse et leurs excellences de Berne ne tardent pas à être informées de ce qui se trame au bord du lac. Davel est arrêté aux premières heures du 1er avril 1723. Il est escorté jusqu'au château. Cette arrestation est le fait des autorités lausannoises qui, à ce stade des événements, n'agissent pas sous l'impulsion bernoise. Davel prononce une phrase qui a traversé les siècles, peut-être la connaissez-vous, « Je vois bien que je serai la victime de cette affaire, mais n'importe, il en reviendra toujours, quelque avantage à ma patrie. » Au château, on ne perd pas de temps sans attendre les représentants de Berne, les premiers interrogatoires sont menés. Une seule question sera au centre du procès. Le major Davel a-t-il des complices ou a-t-il agi seul? Jamais au cours de ces trois semaines qui vont suivre, Davel ne variera dans ses déclarations. Personne, absolument personne n'était au courant. Davel a agi seul et assume l'entière responsabilité de ses actes et de son opération. Le secret, affirme-t-il même, était l'âme de cette entreprise. Pendant ce temps, les baillis sont invités à regagner leur terre vaudoise, puisqu'ils étaient tous à Berne, et prennent toutes les mesures qui leur semblent adéquates. Au commandant du pays de Vaud, le trésorier roman Louis de Wattenville obtient les pleins pouvoirs de leurs excellences. Une fois arrivé à Lausanne, c'est lui et la cour baillivale qui vont mener la suite des interrogatoires. Le dossier d'instruction est le troisième document essentiel de cette affaire, après le discours et le manifeste lu devant le Conseil des 24 à la Palue. C'est au cours de cette instruction et en particulier d'un entretien avec le trésorier Raymond de Wattenville que Davel évoque l'épisode connu depuis lors comme étant celui de la belle inconnue. Cette belle vendangeuse, dont on ne connaît toujours pas l'identité, 300 ans plus tard, prédit à la mère de Davel la mort de son fils dans les 3 jours. Mais à la place de la mort, Davel vit une extase lumineuse. Durant l'instruction, il se rappellera cet épisode vécu alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme. À travers ce récit, on peut percevoir un personnage emprunt d'une piété toute particulière. La prière trouvée sur lui le jour de son arrestation s'adresse d'ailleurs à l'éternel grand Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui gouverne toutes choses par sa divine providence. L'interrogatoire de Davel dure une douzaine de jours seulement, durant lesquels il est soumis à torture. Leurs excellences de Berne n'auront pas de réponse aux questions qu'elles se posaient. Qui sont ses complices? Dans quelles mains extérieures au pays a-t-il remis son manifeste? Davel est inébranlable et rien ne le fait flancher. Le 12 avril 1723, donc 12 ou 13 jours après son arrestation, leurs excellences de Berne mettent un terme à l'instruction. Et durant tous ces jours où Davel est soumis à un interrogatoire, serré, Berne élude complètement son manifeste et les questions qu'il soulevait, elles ne sont tout simplement jamais discutées. Le tribunal des causes criminelles, constitué des nobles, citoyens et bourgeois habitant la rue de Bourg, est appelé à juger d'Avel en première instance. Leurs excellences sont soucieuses de garder la main sur cette affaire hors norme et se gardent le privilège de le juger en dernière instance, ce qu'elles feront. Le samedi 17 avril, le major d'Avel paraît devant ses juges avec son sang-froid ordinaire. Isaac Deloïs de Beauchat, le lieutenant Baillival et à ce titre l'homme de confiance de leurs excellences de Berne, prend la parole pour dire ceci. Le cas du prévenu qui vient de paraître à vos yeux est si singulier qu'il ne s'en trouve aucun exemple parmi nous. Les auteurs même qui ont traité de crimes de lèse-majesté ne nous rapportent rien de semblable. Qui l'aurait cru en effet qu'un homme comme celui-ci, comblé des bienfaits et honoré de la confiance de son souverain, eût été capable de tomber dans le noir péché de l'ingratitude envers ses bienfaiteurs, de se soulever contre lui en mettant leurs troupes sur pied, les armes à la main, et s'en servir sous un faux prétexte et par surprise, pour faire soulever leurs fidèles sujets et les porter à se soustraire de la plus douce domination qui soit au monde. Un attentat de cette nature ne peut être regardé que comme un crime de lèse-majesté, un acte de révolte et de sédition. Le destin de Davel est scellé. Le lieutenant Baillival et procureur recommandent que Davel soit pendu et étranglé, son corps mis en quatre quartiers pour être exposé dans les lieux que leurs excellences trouveront à propos. Et comme elle l'avait annoncé, leurs excellences ont le dernier mot. Elles épargnent à Davel le supplice du poing coupé, mais pas le destin de la tête tranchée. Elle fixe l'exécution au samedi 24 avril, jour de marché. Ce jour-là, une grande foule se rend à Vidy, assistée au dernier moment du major d'Avel, qui jusqu'au bout fait montre d'un grand calme, d'un sang-froid, d'une dignité et d'un élan chrétien qui resteront dans les mémoires. Il prononcera ces paroles que l'on connaît bien, « C'est ici le plus beau jour de ma vie, jour heureux, où je puis vous parler à cœur ouvert, étant prêt d'aller rendre mon âme entre les mains de mon Créateur. » Ainsi se termine la première vie de Davel. Et commence sa seconde vie. Sur le moment, la nouvelle de la décapitation de Davel fait grand bruit, en tout cas fait grand bruit dans les ambassades que Berne a informées. Berne informe donc les cantons suisses ainsi que les chancelleries étrangères de l'acte de rébellion qui vient de se dérouler au bord du lac. Mais en même temps et parallèlement, leurs excellences s'attachent à faire disparaître et à contrôler toute trace écrite officielle de l'affaire. Mais l'événement ne reste cependant pas inconnu des compatriotes de Davel. On ne peut empêcher une population de parler, d'échanger des correspondances personnelles. Un ouvrage paraît même aussi à Amsterdam en 1726, signé de Barthélemy Barnot. Tout cela a sans doute participé ainsi à la diffusion de l'événement. L'historien Andreas Würgler a longuement étudié les gazettes de l'époque et y a trouvé nombre d'évocations sur cette affaire. Les comptes rendus du XVIIIe siècle s'en tiennent souvent au fait, sans les commenter, mais ils ont eu un écho médiatique important dans cette Europe des gazettes. L'une d'elles écrit quelques jours après l'exécution de Davel, « Marcher comme un héros et se laisser attraper comme une bête, il y a là tant d'extravagance dans ce procédé. » Durant tout le XVIIIe siècle, donc, Davel se fait malgré tout discret. En 1798, 75 ans, trois quarts de siècle après son exécution, à l'heure de la Révolution vaudoise, ses acteurs ne convoquent pas pour autant le major Davel pour appuyer leurs revendications de changement. Ils lui préfèrent Guillaume Tell. Un homme, pourtant, va militer avec force pour la mémoire de Davel. C'est Frédéric César de la Harpe qui a été un aiguillon important au moment où il a fallu convaincre les Vaudois de se lancer sur le chemin de l'indépendance. En 1798, il écrit à Pierre-Maurice Clerc, qui est alors président de la nouvelle Assemblée provisoire du Pays de Vaud, « Il serait tout aussi convenable de réhabiliter de la manière la plus solennelle la mémoire du major d'Avel. » L'harpe a du mal à se faire entendre, il crie dans le désert. Au début du XIXe siècle, ses tentatives de réhabilitation restent encore lettre morte. Mais sa persévérance finira par payer. Une année après sa mort, après la mort de l'harpe, grâce notamment à sa générosité, une plaque est posée en 1839 dans le cœur de la cathédrale de Lausanne, plaque dédiée aux martyrs des droits et de la liberté du peuple vaudois. Deux ans plus tard, en 1841, une souscription publique permet d'élever un obélisque sur la place d'armes de Cuilly, d'où est parti le major d'Avel pour Lausanne. La voie est alors ouverte. Un écrivain, un poète, Juste Olivier, va publier en 1842 la première biographie de d'Avel, intitulée simplement « Le major d'Avel ». Cet ouvrage va placer le martyr sur le chemin du héros. L'ouvrage de Juste Olivier occupe aujourd'hui encore une place importante. Son style, son écriture, son ton confèrent au major une stature de héros du pays de Vaud. L'historien David Auberçon voit dans Juste Olivier l'inventeur du d'Avel des 19e et 20e siècles que l'on connaîtra. Lorsque paraît son major d'Avel, Juste Olivier est professeur à l'Académie de Lausanne, et c'est sur la base de documents d'archives auxquels il a eu accès qu'il donne la parole à d'Avel, qui incarne selon lui le peuple vaudois, sa lenteur, sa douceur, son bon sens et sa résignation. Juste Olivier ne cache pas son enthousiasme pour le personnage, il n'hésite pas à tracer une parenté entre son héros et Jeanne d'Arc. Avec Juste Olivier, d'Avel est lancé. Très rapidement, après la publication de l'ouvrage du professeur Olivier, les Vaudois s'emparent de la figure de d'Avel, qui s'invite dans le débat politique du XIXe siècle. Si le mouvement libéral qui triomphe en 1830 n'utilise pas la figure du major, les radicaux, dès leur accession au pouvoir en 1845, vont faire fructifier cette figure de héros. Une dizaine de jours après leur prise de pouvoir, ils organisent un cortège auquel prennent part 5000 personnes, cortège qui part de Lausanne pour se rendre à Cuilly devant le monument d'Avel. Les participants sont invités à honorer la mémoire de celui qui sut mourir pour l'indépendance de son pays. D'Avel est la liberté d'un peuple, le lien est alors fait. D'Avel n'est pas seulement utilisé, entre guillemets, au niveau politique, les Vaudois le hissent aussi jusque sur les scènes théâtrales. Il semble bien que cela soit la Société de jeunesse de Corcelles-Prépayerne qui mette pour la première fois en scène le héros vaudois. Le 31 décembre 1845, une centaine d'acteurs, quand même, amateurs, entoure le personnage principal, interprété par un dénommé Félix Perrin. L'échafaud se trouve à quelques mètres, personne au village ne veut être l'exécuteur des hautes œuvres, et donc Corcelles-Prépayerne est obligé de faire appel à un manœuvre, entre guillemets, étranger, pour accepter, qui acceptera d'endosser ce rôle d'exécuteur. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, grâce à Juste Olivier, les Vaudois apprennent la vie, les paroles et les valeurs de d'Avel. Juste Olivier le fera revivre et Charles Glaire, le peintre, lui donnera un visage. Ce tableau déclenche, on l'a déjà vu plusieurs fois, une vague d'enthousiasme. Dans l'imaginaire collectif, le visage de d'Avel ne changera plus, même jusqu'à aujourd'hui. Les Vaudois y reconnaissent les traits d'un apôtre du dévouement, comme le dit le nouvelliste vaudois en 1850, et d'un homme qui a conservé sa foi, sa confiance en Dieu, sa sérénité, jusqu'au dernier instant de sa vie. C'est le moment de faire une petite digression sur la moustache de d'Avel. Ces trois œuvres, réalisées sans doute avant le tableau de Glaire, montrent un d'Avel sans moustache. Au début du XVIIIe siècle, en Europe, on ne voit que des figures rasées de près. On considère, souligne l'historien Nicolas Baptiste, cette apparence comme une marque de civilité, de discipline et de moralité. Donc, selon toute vraisemblance, Davel ne portait pas de moustache. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la figure de Davel ne cessera de prendre de l'ampleur. Il inspirera nombre de pièces de théâtre, de drames, de pièces musicales, de festivités, d'éloges, de rencontres populaires. Un des grands moments de commémoration se déroule en 1898, à l'heure du centenaire de la Révolution vaudoise. Pour marquer ce centenaire, une statue de Davel est érigée sur la place du château et inaugurée le 14 novembre 1898. Cette statue et son emplacement font l'objet d'une petite dizaine d'années de discussions politiques. L'historien Olivier Meuvely pose même la question, est-ce que cette opération dont les libéraux et les radicaux prennent les rênes ne fut pas le premier terrain d'expérimentation pour un rapprochement entre les deux forces politiques vaudoises du moment, soit les libéraux et les radicaux. Ce comité d'Avel a peut-être servi d'incubateur à une nouvelle harmonie et une construction de l'alliance entre ces deux forces politiques. C'est en tout cas l'hypothèse qu'émet Olivier Meuvely. Une année plus tard, en 1899, c'est un monument qui est inauguré à Vidy, la foule est là, les chants patriotiques sont de la manifestation. Avant l'installation de cette stèle, l'archéologue cantonal Albert Neff fait fouiller le site pour tenter de retrouver la position exacte de l'échafaud et d'éventuels restes de Davel, mais c'est peine perdue et sans succès. Davel prend de l'ampleur donc dans la mémoire vaudoise et en 1903, une affiche est publiée qui retrace son parcours de Moran à l'échafaud. Mais le véritable moment de la rencontre entre le Pays de Vaud et son héros, ce sera le bicentenaire de la mort de Davel en 1923. Sa figure est alors à son apogée. Le Grand Conseil est l'orchestre des festivités qui anime chaque village, chaque ville du canton de Vaud. Cortèges, discours, cérémonies religieuses, spectacles, récits, études historiques, les Vaudois débordent d'enthousiasme pour leur révolutionnaire. Son courage, son patriotisme et sa foi sont encensés. Le 24 avril, une cérémonie officielle se tient à la cathédrale de Lausanne. Grand Conseil, Conseil d'État, invités officiels se retrouvent sur la terrasse du château pour former le cortège qui se rend ensuite à la cathédrale. Musique, prière, chœur, discours émaillent cette cérémonie. Cuilly, plus que tout autre village vaudois, tient évidemment aussi à honorer son héros. Le chroniqueur de la Gazette de Lausanne évoque ses festivités. « Nous n'avons pas souvenir d'avoir assisté dans notre carrière de journaliste à une fête patriotique ayant un caractère aussi original, aussi artistique et en même temps aussi profondément et aussi noblement populaire. Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que la cérémonie de Cuilly marquera une date dans l'histoire de notre art populaire et civique. » Ramu prend la parole lors de cette journée à Cuilly. Je vous propose de l'écouter.
Il a été seul jusque dans la mort. On l'a jeté dans un cachot. On lui a mis des chaînes aux mains et aux pieds. Nous avons laissé faire, on lui a coupé la tête. On l'a mené au lieu de supplice un samedi après-midi, jour de grand marché et jour de printemps quand tout commence, et pour lui tout allait finir. Nous avons laissé faire. Ceux pour qui il allait mourir l'ont laissé aller à la mort sans rien dire. Il a fait à pied la longue route qu'il y a de la cité au marais de Vidy. Il marchait entre les soldats, personne n'a rien dit. Il passe, on n'a rien dit, on a dit, c'est le major, on va lui couper la tête. Il a traversé toute la ville un samedi après-midi, marchant à la mort. Personne ne lui a dit adieu, personne ne lui a fait signe. et il part. Et il a passé. Il n'est déjà plus là. On n'a rien dit. On l'a amené comme un malfaiteur à l'échafaud. Nous l'avons regardé passer sans chercher à le retenir, sans même penser à le remercier, sans un mot de regret, sans un adieu, sans un signe de tête. Il donnait tout à son pays. Son pays ne lui a rien donné. Nous avons laissé faire, on lui a coupé la tête. Il nous a parlé avant de mourir. Il nous a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Nous n'avons rien répondu, nous n'avons même pas compris. Il s'est tourné une dernière fois vers nous, et un instant encore, il s'est tenu richement habillé de rouge avec son grand visage heureux devant nous et un peu au-dessus de nous. Nous avons regardé sans comprendre, nous nous sommes tus, nous n'avons rien dit, nous n'avons laissé faire. On lui a coupé la tête le 24 avril 1723, un samedi après-midi.
Au théâtre, en 1923, deux créations tiennent le haut du pavé. L'une se déroule au théâtre de Lausanne, l'autre au théâtre du Jorat à Mézières, où le Conseil fédéral incorpore assiste aux davels de René Morax et Gustave Doré. Ces festivités de 1923, c'est aussi l'occasion pour les Lausannois, par la voix de son syndic Arthur Frémont, de tourner une page douloureuse. Pour nous, Lausannois, dit-il, je cite Frémont, « la glorification de Davel ne saurait susciter que des pensées graves. Lausanne, c'est hélas la ville qui ne sut pas le comprendre, où s'évanouit le mirage de la liberté reconquise, où se brisa cet espoir animateur qu'il avait construit tout au long de sa carrière. La ferveur populaire que le pays de Vaud connaît autour de Davel en 1923 se calmera au fil des décennies suivantes. Quelques œuvres émergent néanmoins encore. Le peintre Charles Clément réalise en 1932 un vitrail dédié au major Davel, au pieux martyr et annonçateur de notre liberté. Ce vitrail surmonté d'un écu vaudois relate les épisodes marquants de la vie du héros. Charles Clément toujours reprendra le thème de Davel en 1938 dans deux toiles exposées dans les escaliers de l'hôtel de ville de Lausanne. En 1978, Gilles Pidoux reprend la pièce de Maurice Constanson, La Muse, jouée en 1923 à Lausanne. Elle la met en scène aux arènes romaines d'Avenches. Et 10 ans plus tard, c'est Michel Buller qui dit et chante son Davel. Il le joue plus d'une centaine de fois à Puyi, dans le canton et même à Paris. Entre les arènes d'Avenches et le Davel de Michel Buller, il y a cet événement qui va atterrer les Vaudois, exposé dans un couloir du Palais de Rumine, l'œuvre de Charles Leclerc, qu'on a vu à plusieurs reprises ici, l'exécution du major Davel, est détruite par un incendie. Un inconnu a bouté le feu à la peinture considérée comme appartenant au patrimoine vaudois. Davel aujourd'hui, que nous dit-il? Cette année, en 2023, Davel a fait l'objet de plusieurs événements à travers tout le canton. Une exposition, visible aussi aux archives cantonales vaudoises, a tourné dans les gymnases vaudois. Vous en voyez là l'affiche qui reprend les éléments et la disposition du tableau de Glaire. Les historiens, évidemment, se sont penchés sur Davel et ont livré leurs dernières recherches. Ce 300e anniversaire de l'exécution de Davel n'a pas livré de découvertes fondamentales. L'essentiel des documents avait déjà été exploité, notamment par l'historienne Marianne Mercier-Campiche dans les années 1970. Mais cet anniversaire a permis d'approfondir le sujet et ses marges. Le colloque qui s'est déroulé au mois d'avril a donné l'occasion à plusieurs historiennes et historiens de redécouvrir le pays de Vaud de Davel et d'explorer comment ce personnage est devenu une référence si importante pour les Vaudoises et les Vaudois. Au niveau politique, Davel a suscité une tentative de la part des Verts, une tentative de réhabilitation du major Davel, qui n'a pas passé lors de la votation au Grand Conseil. Bien sûr, aujourd'hui, on est loin de la ferveur et de l'enthousiasme qui ont prévalu au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les temps ont changé. Au XIXe siècle, le canton de Vaud devait prouver à la Suisse qu'il pouvait être un canton à part entière. La figure tutélaire de Davel a sans doute permis de porter alors une certaine idée de l'indépendance d'un pays. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, si un citoyen ou une citoyenne relit Davel dans les quelques documents qu'il nous a laissés, elle peut y découvrir des valeurs qui lui parlent. Si on les transcrit en des mots d'aujourd'hui, on parlerait de liberté, de droit d'un peuple à exister, de justice, de respect d'une autorité à l'égard de ses administrés. Davel a réellement questionné son temps, un gouvernement, la marche d'une société, et c'est ce qu'il nous laisse peut-être aujourd'hui, c'est ce courage qu'il a eu d'interpeller. Je citerai en conclusion quelques extraits d'un éditorial que 24 Heures a publié sous la plume de Gilles Simon. Je le cite, « De nos jours, ne dirait-on pas que Davel fut le précurseur des lanceurs d'alerte, dénonçant népotisme, corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux et incompétence. Alors, vaudois du XXIe siècle, poursuit Gilles Simon, en sommes-nous dignes de Davel? Dénonçons-nous suffisamment les injustices, les entorses au droit, les magouilles? Soutenons-nous au moins assez ceux qui l'osent? » Il termine sur un vœu que cette année de commémoration soit aussi l'occasion de réaliser que cette liberté de choix et de parole, dont le major n'aurait même pas osé rêver, est un trésor qui, comme l'affirmait Guy Bedos, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Je vous remercie et je vous remercie de votre écoute.
Vraiment excellent, excellent tour d'horizon. Merci beaucoup à Corinne Chouard de nous avoir éclairé et ébloui. J'imagine qu'il y aura quelques questions. Je ne sais pas si... Peut-être je commencerai en disant... Moi, je n'ai pas bien compris pourquoi il n'y a pas eu cet enthousiasme cette année. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses organisées, et puis on n'a pas eu... Enfin, moi, je n'ai en tout cas pas senti de vague, comme en 1923. C'est vraiment assez étonnant, ce changement de... Enfin, moi, je trouve que...
D'ambiance,
oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus.
Bon, moi, j'apporterai une réponse assez pragmatique. Finalement, l'exécution du major Davel est un événement qui s'éloigne de plus en plus de nous. C'était 200 ans en 1923, ça fait 300 ans aujourd'hui. Il y avait une autre dimension. En 1923, on sortait de la guerre. On avait sans doute des préoccupations on avait beaucoup sans doute parlé d'indépendance du pays, pas seulement du pays de Vaud, hein, d'ailleurs, pendant la guerre de 14-18. Donc il y avait une projection dans cette figure tutélaire de Davel qui était rassurante. Aujourd'hui, on ne parle plus des communes, on ne parle plus du pays de Vaud, on parle de la planète à sauver. On a d'autres préoccupations qui résonnent peut-être moins directement avec les valeurs qu'a pu défendre Davel en son temps.
Merci, oui, c'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions?
Davel a quand même suscité autour de lui beaucoup de prises de parole, d'écrits aussi, tout au long de sa vie. Mais ce que l'on peut dire en tous les cas, ce qui ressort, moi, c'est vraiment ça qui m'interpelle ou un point sur lequel je mettrai l'accent, c'est que finalement, même 300 ans plus tard, on ne remet pas en cause Davel. On ne remet pas en question Davel et même sa posture, sa posture de héros du canton de Vaud. Il est là, il fait véritablement partie de l'histoire du pays. Et je pense que c'est aussi intéressant qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans une période où on remet en question beaucoup de choses, eh bien non, là, Davel, on ne remet pas en question, pas même d'ailleurs ni l'affiche de l'exposition, ni le spectacle à l'Opéra de Lausanne ne remet en question et la moustache de Davel et le tableau de Charles Glaire de 1850.
Puis une autre chose qui m'a enfin, ça ressortait plusieurs de textes que tu as lus, les sources, c'est à l'époque il y a une stupéfaction face à son acte. On a un peu le sentiment. Parce que nous, ce qui nous trouble, par exemple, c'est de faire une révolution avec des soldats qui n'ont pas de cartouches.
Non seulement de faire une révolution avec des soldats qui n'ont pas de cartouches, mais faire une révolution en solo, seul.
Oui.
Bien sûr que c'était voué à l'échec d'avance, c'est clair, cette opération-là. Trois quarts de siècle plus tard, en 1798, les Vaudois se souviendront, et en particulier la harpe, qu'il faut qu'une opération soit portée par un peuple. Alors, bien sûr qu'en 1798, les Vaudois n'ont pas été les premiers à se révolter et à se lever, mais néanmoins, ils l'ont fait, et il y avait des connexions, il y avait des autorités qui allaient se mettre en place. On ne peut pas dire que Davel avait un projet politique, en tout cas, on ne le connaît pas s'il en avait un.
Mais ce qui frappe, c'est pas ça qui étonne les gens de l'époque, c'est vraiment l'idée qu'ils contestent l'ordre établi. C'est vraiment, nous, ça nous paraît normal a posteriori, mais en gros...
L'on sait les gens qui n'étaient pas étonnés n'ont peut-être pas pris la parole non plus.
Ouais. Oui, on a des sources qui sont biais, mais c'est sûr.
Des descendants de la famille d'Abel, que ce soit en Italie ou ici, en Suisse. Donc de ses frères et sœurs, comme ça, est-ce que...
Bonne question.
Parce que je n'ai jamais entendu parler d'un autre d'Abel, à part ce grand héros.
Oui. Je ne peux pas répondre à votre question. Je sais pas.
En tout cas, on n'en a pas ressorti pour.
Non, ça n'a pas été évoqué à travers tout ce que j'ai pu lire ou à travers le colloque qui a eu lieu ce printemps. C'est une question qui n'a pas émergé.
J'ai souvenance qu'il avait un oncle qui avait une maison là où il y avait la glisse à Lausanne, au coin de la. Mais est-ce que son oncle avait des enfants? Je ne sais pas. En tout cas, le nom, à mon avis, il est plus porté. Ouais. Oui, c'est intéressant.
Merci pour votre exposé. J'ai une question qui me taraude depuis longtemps. C'est que le major Davel, qui avait une expérience militaire notable, puisqu'il a servi pour la Hollande, il a servi pour la France, etc., comment se fait-il qu'il a manqué à ce point de vision stratégique? C'était un grand mythique, mais est-ce qu'il... Il ne pouvait pas s'attendre à ce que, agissant seul comme ça, il n'obtienne rien.
Oui, on ne sait pas vraiment ce qui se passait dans sa tête, mais moi, je serais assez. Je pense qu'il n'était pas si sot que ça. Il savait très bien, il avait quand même. L'art militaire était quand même. Il avait vécu une bonne partie de sa vie. Dans cet environnement-là, donc il était sans doute conscient de ce qu'il pouvait lui arriver. Il y a une dimension dont effectivement même dans toute cette année d'Avel dont on a assez peu parlé, c'est la dimension religieuse. C'est pas anodin d'ailleurs dans une société où le spirituel peut-être est un peu moins présent. Qu'il y a 100 ans ou 200 ans, ou même de l'époque de Davel. Et cette dimension-là, je suis assez convaincue que c'est un homme qui a été, d'une certaine manière, porté par sa foi, et sa foi, et qui l'a incité à passer à l'acte. Mais je n'ai pas tellement d'autres explications. Parce que je pense qu'il était tout à fait conscient de ce qui pouvait lui arriver. C'est pas marcher sur Lausanne avec 600 hommes non armés, armés mais pas de munitions, Ouais, voilà. Si on faisait ça aujourd'hui, on n'aurait pas grand succès, en tout cas. Hein.
Je n'en vois point. Je crois qu'on peut applaudir Corinne Suard. Alors, merci
à vous.
Une fois.